Vous êtes sur 87.1 à l'écoute des Couleurs FM. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de la commune de Merrier. Merriottes et Merriot habitent entre Bion et Annie, à 2,5 km au sud de la gare SNCF de Bourgoin-Jallieu et à 2 km de l'échangeur autoroutier de Ruy. Merrier est un village très apprécié. La place des écoles offre une vue très verdoyante sur la commune des Épars et donne accès aux 5 classes maternelles, élémentaires ainsi qu'à la médiathèque. Celle de l'église exclusivement piétonne dessert la mairie, les jeux d'enfants, l'épicerie Point Poste, le médecin généraliste, le kinésithérapeute et l'infirmière. Le café, tabac, restaurant chez Josiane et son clou bouliste, ils sont plus très nombreux les clous boulistes dans notre région, bénéficient d'un cadre champêtre très sympathique. Membre de la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, la CAPI, le village profite des services de bus ruban pour être bien desservi. La zone d'activité du Bion accueille des entreprises dynamiques, travaux publics, imprimeries, transports spéciaux. Les Merriot sont jumelés avec Bossico, village d'altitude dominant le lac d'Iseo en Italie du Nord, et ont rendu visite à Serrazu Slon, Roumanie. Bonjour, je suis avec Monsieur Eugène Rey, qui est le maire de Merrier, qui est une petite commune au sud de Bourgoin, de environ 1100 habitants. Il va vous la présenter.
Oui, alors Merrier, 1086 habitants pour être précis. Petite surface, puisque Merrier se limite à 340 hectares, située entre la vallée du Bion et la vallée de l'Agny. Donc très bien exposé, très protégé par rapport au bruit, à la qualité de l'air, etc. Et très bien desservi, puisque proximité de la gare de Bourgoin-Jallieu, proximité de l'entrée d'autoroute de Nivola-Vermel et rue Monceau. Voilà, une qualité de vie qui est vraiment très reconnue et voire même recherchée.
Il y a Merrier, il y a un plateau et puis il y a une vallée, je pense en particulier celle du Bion, où il y a tout un développement économique.
Tout à fait, développement économique avec une zone d'activité que l'on a maintenant en commun avec Maubec. Activité qui va forcément se développer puisque la CAPI qui a la compétence va agrandir cette zone parce que route à grande circulation, 12 000 véhicules jour. Très peu de services sur toute cette vallée du Bion offerte aux populations. Et donc, évidemment, des problèmes de déplacement, de mobilité pour arriver sous la gare de Bourgoin-Jallieu, d'où une nécessité de travailler sur cet axe Bourgoin-Saint-Jean-de-Bournay.
Mais on vient d'évoquer la CAPI. Pour une petite commune comme Merrier, donc qui fait partie des communes des premières heures de la CAPI, qu'est-ce qu'apporte ou quels sont, je dirais, les points forts de la CAPI?
Ah ben, pour nous, véritablement, il y a eu des sujets très importants traités au niveau intercommunal. On va parler d'abord de l'assainissement de l'eau, où là, on a eu des investissements très importants qui améliorent à la fois la qualité de l'eau servie, puisqu'on était quand même limite, la sécurisation de la qualité par tout un travail d'interconnexion de toutes les communes de CAPI. L'assainissement, pareil, on est regroupé avec une station d'épuration sur Bourgoin-Jallieu. La CAPI, c'est encore les transports. Ça a été l'argument décisif pour la constitution de cette agglomération, pouvoir permettre aux populations d'éviter d'utiliser la voiture. Alors, il y a encore, évidemment, énormément à faire, mais c'est un axe de travail important sur lequel nous sommes très très présents et nous allons pouvoir dans les années à venir proposer des solutions alternatives.
Vous travaillez beaucoup sur ces projets de déplacement alternatif, aussi bien au sein de la commune, de la CAPI et même plus largement du Nord-Isère.
Tout à fait. La question de la mobilité est un sujet qui concerne l'ensemble du Nord-Isère, qui ne s'arrête pas à la limite de la commune de Merrier, pas non plus à celle du territoire CAPI, puisqu'on va bien au-delà sur tout notre territoire Nord-Isère. Ça doit représenter de l'ordre de 120 communes à peu près. La problématique générée sur les bouchons, sur la qualité de l'air, etc., d'où une priorité en termes de travail.
Revenons un petit peu à la commune de Merrier. Je crois que depuis peu de temps, vous avez un pôle santé qui s'est développé, qui est maintenant très complet et opérationnel.
Oui, sur nos petites communes, aujourd'hui, on se doit d'offrir à la population un service de proximité. Au cas particulier, nous avons pu, conjointement avec des professionnels de la santé, créer un bâtiment qui abrite 7 activités, donc médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues. Voilà, 7 activités qui permettent aux gens du village, mais aussi des villages autour, de trouver réponse à tout un tas de difficultés qu'ils peuvent avoir. Et tout ça sans avoir à se déplacer et à aller très loin. Nous avons aussi, par exemple, 2 orthophonistes dans ce même bâtiment et ça fonctionne très bien.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses complémentaires à nous dire sur Mériez, que sachant qu'on va rencontrer quelques acteurs économiques, quelques acteurs associatifs et quelqu'un qui va nous parler d'histoire? Est-ce que vous avez d'autres éléments?
Alors, on travaille à fond toujours au niveau du service à la population pour essayer de vraiment faire vivre une petite épicerie. Donc petite épicerie en plein centre-village sur laquelle nous investissons pas mal d'argent pour rajouter des services. Donc au-delà de l'épicerie, on a pu créer une cuisine tout récemment à la norme, ce qui permet de développer une activité de traiteur, voire de petite restauration. C'est ce qui permet vraiment un lien social important au centre même du village, à toutes les générations de se rencontrer, de partager, de venir échanger et qui aussi permet aux associations du village de trouver là un centre d'intérêt commun.
Il me reste à vous remercier donc de m'avoir consacré du temps à cet entretien.
Merci beaucoup et à votre antenne. J'espère que vous allez forcément être bien reçus par tous nos acteurs du village qui sont d'un dynamisme étonnant et que les auditeurs trouveront de l'information intéressante. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi. L'histoire de Mériez est très ancienne. Sans doute occupée dès l'âge de bronze, on y a découvert des traces d'une villa gallo-romaine. Plus tard, Mériez, avec son seigneur local, fut rattaché au seigneur de Maubec. La maison forte de la Barre est là pour rappeler cette période. On connaît peu de choses sur elle. La famille de Geoffrey est attestée comme possédant maison et droits seigneuriaux au XIVe siècle. En 1447, elle passe par mariage à la famille de la Barre, seigneur de Maubec. Cette bâtisse est en cours de restauration pour un entrepreneur de Mériez. Son imposante tour carrée est visible depuis la vallée du Bion et sur la route de Saint-Jean-de-Bournay. Au XVIe siècle, un épisode de l'histoire de France et du Dauphiné est relié à Mériez. Le 30 avril 1524, à la bataille de la Sericia, Bayard, héros des guerres d'Italie, est tué par les Espagnols. Il meurt dans les bras de son écuyer, Geoffrey de Mériez. L'église est également un édifice remarquable. Les matériaux utilisés pour sa construction sont très variés, avec des provenances multiples de toute la région. Un important travail de restauration récent a permis de mettre à jour tous ces matériaux. On peut également voir à l'intérieur les armoiries de la famille de la Barre, qui prouvent l'ancienneté de cet édifice. Bonjour, je suis avec Alain Torrent, qui est la mémoire vivante de toute l'histoire de Mériez et qui va nous en parler. Donc depuis les origines jusqu'à aujourd'hui presque.
Mériez a été occupé, on peut dire, depuis l'âge du bronze. On ne peut pas parler de Mériez sans évoquer Maubec, puisqu'elle a très longtemps fait, le village a très longtemps fait partie de la baronnie de Maubec et du marquisat de Maubec, et ce jusqu'en 1682. Ce n'est qu'en 1801, que la commune a été distraite de Maubec et est devenue une commune à part entière. Maubec, qui était relié autrefois par un pont en pierre, ce pont en pierre a été emporté par les crues tumultueuses du Bion. En face des moulins du Bion se trouve la butte de Châtillon. Alors une butte qui est très intéressante parce que c'est un site archéologique important. Et au travers des fouilles qui ont été effectuées, on a découvert beaucoup de vestiges et gallo-romains et du Moyen-Âge. Aussi beaucoup de ces fragments qui datent du Moyen-Âge. Alors du Moyen-Âge, on a découvert un cimetière. Ce que je voulais préciser auparavant, c'est que Mériez, ça vient de Mériacum, du gallo-romain. Mériacum qui signifie « domaine de Marius ». La première villa qui aurait existé à Mériez serait située au hameau du coin.
Ces fouilles qui ont été faites, elles ont été faites localement?
Alors il y a eu 2 phases de fouilles par une association de Maubec et puis par la passe. Les plus importantes ont été effectuées constitué par la passe. C'est la passe qui a découvert ce cimetière, on va dire, méro-carolingien avec nos 7 tombes. Ici, on fait quelques pas de plus, on va arriver à un étang, enfin, l'étang n'existe plus, et c'était un étang qu'on disait très poissonneux.
Vers cet étang, là, c'est pas là où il y avait un ermite?
Oui, alors justement, dans cet étang, sans doute, l'ermite qui s'appelait Jean-Baptiste Perrier venait y pêcher, mais il avait surtout deux cabanes, une pour l'été et une pour l'hiver, et dans laquelle il avait vécu plus de 30 ans. Pour vous dire comment Jean Perrier a terminé sa vie, eh bien, il est décédé en novembre 1920, et il était ramené dans une charrette jusqu'au cimetière de Mérier, accompagné par les gendarmes, de nuit de plus. Jean-Baptiste Perrier, il existe une carte postale qui l'évoque et qui parle de Beauvoir, mais en fait c'est sur Mérier.
Il y a aussi quelques édifices religieux sur Mérier. Bon, il y a l'église qu'on voit au centre du village, mais il n'y a pas une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Salette?
Voilà, la petite salette de Mérier. Le curé qui l'a fait bâtir était originaire de Ruy, c'était le curé Rabillou, et pour convaincre son évêque, il a dit de cette chapelle, on voit le débarcadère, c'est-à-dire la gare de Bourgoin-Jallieu. Alors, ça a été construite en 1858. Pourquoi ce curé a-t-il absolument voulu construire cette chapelle? Eh bien, tout simplement parce que lors des dites apparitions à la Salette, qui est près de Corps, le curé Rabillou était vicaire à Corps et il a connu l'un des deux bergers, Maximin Giraud, qui a dit avoir vu la Vierge. Ce Maximin Giraud est venu passer ses vacances en 1852 chez le curé Rabillou de Mérier.
Il y a la chapelle et puis après on peut remonter dans le centre du village où là il y a une église et pas mal d'anciens bâtiments.
Oui, alors quand on arrive au centre du village, eh bien, à gauche il y a une fontaine, hein, c'est l'eau qui a été amenée en 1900 par Blaise Veillé avec des conduites en grès et qui est bordée de palais. Vous avez ensuite l'ancienne maison communale, mairie et école communale, et qui aujourd'hui est devenue une épicerie, et puis l'église, le monument aux morts qui a été déplacé au fond. À droite, vous avez le presbytère qui a été tour à tour mairie, maison commune, école, presbytère, à nouveau école, et maintenant à nouveau c'est l'emplacement de la mairie. Alors l'église, en dire deux mots quand même, l'église Saint-Clair, à l'intérieur il y a une chapelle. Et dans cette chapelle, il y a les armes du seigneur de Mérier. Cette chapelle a été donc édifiée par la mère de Jean de la Barre, et cela va nous amener au château de la Barre, qui est situé quelques centaines de mètres plus loin. Alors on dit château, c'est ici, au village qu'on dit château, mais c'est plutôt une maison forte, qui date du XIIe siècle, et qui a conservé sa tour. Et ce château de la Barre, différentes familles que se sont succédées au sein de ce château, et surtout on va parler de l'un qui a fait parler lui, c'est Jacques Joffret, qui était le dernier écuyer de Bayard. Il a assisté Bayard lors de ses derniers jours. Si on s'avance au bout du château, on voit le Val du Bion, puisque Mérier est situé entre le Val du Bion et le Val de Lagny, et on aperçoit l'ancienne grande bâtisse qui était une bâtisse de tissage qui a été construite par Meunier Badin. On peut voir incrusté sur le mur ses outils qui sont sculptés, un mètre et un ciseau. C'est une usine d'impression, Meunier Badin. Usine d'impression, il y avait deux, celle d'en bas. En 1930, il y avait 54 ouvriers textiles qui travaillaient la soie à Mérier, donc. Cette usine qui par la suite a été reprise par Antonin Farou et enfin par Maniguet, c'est le nom qu'ont retenu surtout les gens de Mérier, puisque d'ailleurs le chemin qui passe derrière s'appelle le chemin de Maniguet. Cela va nous amener à une autre usine textile. Alors l'usine Marc Rosier, c'était une marque très réputée pour les foulards.
L'entreprise Marc Rosier n'est plus qu'une toute petite entreprise, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qui est passée dans des mains étrangères. Vous avez d'autres choses à rajouter peut-être?
Oui, peut-être au sujet de la chapelle de la Salette. Il y a une chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et au cimetière de Ruy. Eh bien, je me suis aperçu que sur la tombe du curé Rabillou qui avait fait construire cette chapelle, eh bien, au pied de la tombe, il y avait un bas-relief de la chapelle de Mérier.
Je crois qu'on a oublié quelque chose. À Mérier, il y avait un champ de tir.
Voilà, c'est du côté de la Combe, du Bion. Il est juste d'en bas la butte de Châtillon. Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Il a été construit pour la caserne Brunier de Bourgoin. Les gens ont été expropriés en 1879. Au bout du champ de tir, on peut encore voir d'ailleurs des fosses qui servaient à ces tirs. Il faut dire qu'on est après 1870. La guerre de Prusse s'est terminée. Il y a peut-être un esprit de revanche. Puisque même dans les écoles primaires, eh bien, on fournissait des carabines aux enfants. À Mérier, par exemple, on a eu tiré en une seule journée 1400 cartouches, puisque nous sommes ici au clos Botu, tenu par Josiane et Gilbert, un des rares clos boulistes qui existe encore dans la région, et une société de boules qui a été créée en 1920 par un ancien maire, Jules Reynaud.
Même si Mérier est une petite commune, elle a une histoire qui est riche.
Voilà, et bien je vous remercie, et bonne continuation pour votre intéressante émission.
Merci beaucoup. Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM, et nous vous invitons à passer quelques minutes avec David Hallyday, pour toi.
cherche à me dire. Quand tu pleures seul dans le noir, quand tu retiens ton sourire, aussi loin, si loin de moi, lorsque tu t'en cherche à connaître ce que je cache au fond de moi. Je pourrais faire disparaître les fantômes d'autrefois qui tournent autour de toi. Les fantômes d'autrefois.
Comme toutes les communes du Nord-Isère, on y retrouve de nombreuses associations. Le site internet de la commune permet d'avoir les coordonnées de toutes celles-ci et les noms de leurs dirigeants. Difficile de les rencontrer toutes. Nous en avons donc rencontré quatre qui ont attiré notre attention par leurs particularités. Le Bruit du Marteau, association d'intermittents du spectacle qui regroupe des métiers que les spectateurs ne voient pas, accessoiristes, monteurs de décors, gestionnaires du son et de la lumière. Cette année, le Bruit du Marteau a organisé pour la seconde fois un concours de montage d'échafaudage qui a rencontré un très beau succès, tant du côté des professionnels que du côté du public. Le comité de jumelage qui, cette année, fête les 35 ans de son jumelage avec le village de Bossico en Italie du Nord et qui entretient également des échanges avec un village de Roumanie. Les Déambules, groupe de chanteurs et de musiciens qui interprètent et arrangent des grands succès de la chanson française. C'est un groupe qui s'est produit dans un grand nombre de villes et de villages du Nord-Isère. Une particularité de Mériez, un foyer rural qui regroupe un grand nombre d'activités pour tous les âges et avec environ 250 membres. Ces activités sont au nombre de 6. Les Joyeux Retraités, les Deux Fils, Je t'aime, jeu GEUX, ce sont des thèmes de jeu, Mériez Marché Nature, la gym des plus de 50 ans, et des jardins partagés. Vincent Rosier, son président, nous détaillera toutes ces activités. Donc je suis dans une petite rue de Bourgoin, une petite rue piétonne, et pas tout à fait piétonne plutôt, avec Madame Léa Sabot, qui est la présidente de l'association Le Bruit du Marteau. Alors, qu'est-ce que c'est que Le Bruit du Marteau? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bonjour, Le Bruit du Marteau, c'est le nom du festival qu'on organise pour la deuxième édition à Mérier. Donc c'est le nom d'un festival unique et inédit, qui est un rassemblement de techniciens du spectacle, c'est-à-dire tous les métiers de l'ombre, et principalement un championnat de monteurs d'échafaudage. On a décidé d'organiser autour de l'échafaudage un rassemblement de techniciens du spectacle en général, pour faire découvrir nos métiers de l'ombre.
Est-ce que ce spectacle, ce festival est ouvert à tous les publics?
Bien sûr, c'est l'occasion de montrer tous les métiers qu'on ne voit pas forcément. Donc ça va du montage de scène au montage de la lumière, le pupitreur qui commande les lumières, le cuisinier qui nous fait à manger, enfin tous les métiers qui sont cachés et qu'on ne voit pas forcément mais qui rendent possible les spectacles en général.
Pourquoi le choix de Mérier pour le siège et puis ce festival?
Alors au départ c'est un hasard, mais c'est finalement un heureux hasard. On voulait être à la campagne, dans un lieu qui puisse être convivial. Par hasard on est tombé sur le stade de la salle Prévert en fait, de Mérier, qui correspond parfaitement à nos besoins. Et en fait du coup on a rencontré le maire et tous les acteurs locaux et on a été tellement bien accueillis qu'on a surtout pas envie de partir de là parce qu'on est trop bien à Mérier.
Les gens de votre association sont basés dans la région Rhône-Alpes?
Oui, les acteurs de l'association habitent entre Bourgoin et Lyon, principalement à Lyon.
C'est la deuxième édition, donc il y en aura d'autres.
On espère, là, on est encore dans les bilans de la deuxième édition. On est content parce qu'on a réussi à mobiliser plus de bergaliens, plus de personnes de la commune et puis surtout à travailler avec les associations du coin. On a estimé à 500 personnes environ, les personnes qui sont présentées sur la journée du samedi.
Comment vous faites votre communication?
Alors, à l'année, on a un site internet et après, on a évidemment un Facebook, Le Bruit du Marteau. Et puis, sinon, après, on fait des affiches et on essaye de travailler avec le réseau local. On a travaillé avec Culture Edge, qui est une association alliée aux abattoirs. On essaye de travailler avec SMICART, avec qui on a imprimé une plaquette de rentrée. Voilà, on aimerait réussir à travailler le plus possible avec les associations locales.
Vous êtes une association pour la promotion de ces métiers. Je pense que chacun d'entre vous aussi a son métier et a envie aussi de travailler et d'en vivre.
Oui, bien sûr, c'est une association loi 1901, donc on travaille tous bénévolement pour monter ce projet. Et on est tous techniciens à des postes différents en parallèle. Donc c'est vrai que, par exemple, moi, je vais être monteur d'échafaudage, mais là, sur Le Bruit du Marteau, je fais plutôt de la production. Donc voilà, on apprend tous au travers du montage de ce projet aussi les métiers qu'on ne fait pas le reste du temps, mais qu'on a besoin de faire pour manger toute l'année, effectivement.
Vous êtes un petit peu en annexe des gens qui se produisent dans les spectacles et qu'on voit en premier plan. Et vous êtes vous aussi des intermittents du spectacle?
Effectivement, on est intermittents du spectacle pour tous les membres du bureau quasiment. Donc on travaille de manière aléatoire dans l'année. Bon, cet emploi du temps nous permet de consacrer du temps au montage de ce projet, mais il faut quand même qu'on passe du temps à travailler pour différents employeurs, effectivement.
Oui, c'est ce qui vous fait vivre.
Oui, c'est pas Le Bruit du Marteau qui nous fait vivre pour le moment. Il nous fait rêver, mais il nous fait pas encore vivre.
Vous avez d'autres choses à rajouter?
Moi, je voudrais juste remercier la commune et toutes les associations qui ont participé à cet événement il y a maintenant 2 semaines. Et ça nous a tous réchauffé le cœur de voir que tout le monde était présent et surtout qu'il y a eu beaucoup de sourires malgré la pluie sur les visages présents ce jour-là.
Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation. Je suis avec Philippe Gaillet, qui est le président du comité de jumelage de Mérier. Comité de jumelage qui a, on va dire, 2 facettes européennes. L'Italie d'abord, et puis la Roumanie. Il va nous parler un peu des deux. Alors, pour commencer, l'Italie, je crois que c'est une longue histoire.
Tout à fait. Le jumelage entre Mérier et Bossico, qui se trouve donc en Lombardie, dans la province de Bergame, au-dessus du lac d'Iseo, dure depuis maintenant 35 ans. À l'origine, c'est le conseil municipal de Mérier qui a été élu en 1977, qui a décidé d'essayer de trouver en Europe des petits villages pour pouvoir avoir des échanges. À la suite de cela, et j'ai rencontré personnellement, pour des raisons de travail, le directeur commercial d'une grosse entreprise italienne pour laquelle je travaillais. Et celui-ci nous a mis en contact avec Monsieur Asperti, qui était à Bergame. Et c'est lui qui a trouvé le village de Bossico. Et après un petit voyage en Italie pour aller voir Bossico, nous avons décidé de jumeler nos deux pays.
Il y a eu, entre 1982 et maintenant, beaucoup d'échanges, sans doute avec beaucoup de mériaux et beaucoup d'habitants de Borsico.
Le premier voyage qu'on a effectué en 1982 à Borsico était assez fantastique puisque la moitié de la population de Merrier de l'époque est montée à Borsico. Nous étions 180 et à l'époque, Merrier n'avait que 360 habitants. Les Italiens sont revenus derrière avec 120-130 personnes.
Et donc, il y a eu aussi d'autres manifestations. Je crois qu'il y a eu des espèces de courses relais entre ce Merrier et Borsico.
Alors, normalement, à peu près tous les 5, 6, 7 ou 10 ans, nous faisons une course relais entre Merrier et Borsico, 590 km, à pied ou en vélo. Et je crois que nous avons fait 6 fois la Transalp, c'est comme ça que cette course s'appelle.
Là, on arrive aux 35 ans de jumelage. Vous êtes allé à Borsico au mois de mai, Vienne au mois d'octobre.
Donc dans le cadre de l'évolution du jumelage et pour continuer à rendre cette création un peu intéressante, on a décidé d'ouvrir un peu les buts des échanges et de permettre à la population de Merrier d'élargir notre point de vue et de parler non seulement de Borsico, mais aussi de l'Italie, de sa culture, de son histoire. Et nous avons visité Cremona, qui est donc la ville de Stradivarius, le musée du violon. Et le soir, nous avons eu un superbe concert sur un Stradivarius. Ce jumelage, c'est évidemment des échanges avec Borsico, mais c'est aussi la possibilité aux gens qui participent de voir, de visiter, de comprendre qu'à côté de chez nous, il y a un autre pays avec une autre culture, mais qui est aussi très proche de la nôtre.
Et donc, vous les recevez, je crois, les 14 et 15 octobre. Une belle délégation, et en même temps, ça nous permettra de passer peut-être au sujet suivant. Vous aurez une délégation d'un village roumain qui viendra aussi.
Donc le 14 et le 15 octobre, nous recevons donc nos amis italiens. À cette occasion-là, nous aurons la chance d'avoir une chorale lyonnaise qui s'appelle Escale, qui viendront chanter en l'église de Merrier des chansons italiennes du 16e, 17e et 18e siècle. Ensuite, nous inaugurerons avec monsieur le maire le nouveau quartier de Merrier qui s'appelle le quartier des Noyers et en particulier son pôle médical. Et ensuite, le soir, avant le repas gastronomique que nous ferons à la Maison Prévert, nous aurons un concert des classes et des professeurs du conservatoire Hector Berlioz sur les musiques des Balkans, puisque quelque part, les musiques des Balkans, c'est un peu l'ouverture sur la musique roumaine.
Quand on passe à la Roumanie maintenant, vous avez depuis presque aussi longtemps que Borsico des contacts avec un village roumain qui s'appelle Slon.
L'origine du parrainage que nous avons fait avec Slon est quelque chose de pas très amusant puisque c'était dans les années 87-88. À l'époque, monsieur Ceausescu avait décidé de détruire des villages roumains pour regrouper les paysans dans des HLM dans les périphéries des grandes villes. Et il y a eu un mouvement en France de beaucoup de communes qui ont décidé de parrainer, mais ils ne le savaient pas, ces braves gens de ces villages, de parrainer des villages roumains et de dire attention, on a un œil dessus, vous ne les détruirez pas. Nous avons pu donc prendre nos voitures, nos vélos et nos jambes et aller en Roumanie pour rencontrer ces gens qu'on avait parrainés et qui venaient tout juste d'apprendre qu'on les avait parrainés. Pendant 2 ans ou 3 ans, notre action a été essentiellement une action d'aide forte à ce petit village. Nous avons pu obtenir une subvention non négligeable de la région Rhône-Alpes qui ont permis aux gens de Slon de commencer à avoir un réseau d'eau. Et à la surprise générale, il y a 2 ans, les gens de Slon nous ont rappelé et nous ont dit « Bon, écoutez, on a beaucoup évolué, et bien maintenant, on peut de nouveau commencer à avoir des relations. » Et pour le 35e anniversaire, nous les avons invités, une délégation va venir, et nous espérons tous que ce parrainage de départ sera rapidement transformé en un vrai jumelage.
En Roumanie, il y a aussi une belle mais triste histoire d'aide à un petit garçon là, qui s'est passé.
Une famille à Slon avait un petit garçon qui s'appelait Bogdan, et qui était très malade, et il est effectivement venu avec sa mère. Ils sont restés ici en France pendant plus de 7 mois. Elena était hébergée à Merrier, aidée par les gens de Merrier. Malheureusement, le traitement n'a pas suffi et Bogdan est décédé. Et nos deux populations qui ont vécu cette histoire avec beaucoup de sentimentalité et beaucoup d'amour.
Donc voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Philippe Gaillet. Donc, et puis bonne réception des Italiens et des Roumains, donc à mi-octobre.
Voilà. Je tiens aussi à préciser que dans le cadre de l'organisation de ces fêtes, beaucoup d'associations de Merrier nous donnent la main, en particulier l'association Bolder, qui organise une course d'orientation avec, j'espère, les élèves de l'école de Merrier. Plein d'associations nous donnent la main parce que le jumelage n'est pas la chose du comité de jumelage, mais est la chose du village en entier.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Pour s'associer aux 35 ans du jumelage, un chanteur qui nous vient d'Italie, Roberto Murolo.
Vaga distrattamente abbandonata, l'orecchia sotto capelle annasconnute, mani in tasca che paralizzate, vaga si scanne stelle che so asciute. E a luna rossa mi parli te, il domando si aspetta a me, e mi risponde se io vuoi sapere che non c'è sta nessuno. E io chiamo nome per te vedere, ma tutta gente che parli te risponde tardi, che vuoi sapere che non c'è sta nessuno. Luna rossa, chi mi sarà sincera? Luna rossa, se ne chiuda la da sera senza mi vedere, e io dico ancora che aspetta me foro balcone stanotte tre, e preghi santo per me vedere, ma non c'è sta nessuno. Mille più appuntamenti aggiunte, tante più sigarette ha già picciato, tanta tazza di caffè mi so bevuto, mille bocche l'amare ha già passato, ancora che aspetta a me farò balcone stanotte tre, e preghi santo per me vedere, ma non c'è sta nessuno, ma non c'è sta nessuno.
Je suis avec Martine Genoux-Prachex, qui est une pièce maîtresse des Déambules, les Déambules étant un groupe de chanteurs et de musiciens.
Alors ce groupe existe depuis une quinzaine d'années, il n'a pas changé, il est toujours à l'identique, et il se compose de 12 personnes sur scène qui sont des musiciens, des chanteurs et des théâtreux.
Et quelle est l'origine du nom Déambules ?
Alors, nous procédons toujours de façon collégiale. Les déambules, les dés roulent, donc, signifie la liberté de notre groupe, et la bulle signifie la particularité de notre groupe.
Et dans le mot déambule, il n'y a pas un côté un peu saltimbanque aussi ?
Absolument, puisque nous sommes des baroudeurs, c'est évident. Nous sommes originaux et baroudeurs, et nous aimons nous ouvrir à toutes sortes de cultures, de sensibilités et de spectacles.
En 15 ans, vous avez un répertoire au départ. Ce répertoire a évolué. C'était, je crois, de la chanson française. Et maintenant, il y a peut-être des modifications dans ce que vous faites.
Il y a des modifications obligatoires puisque le monde évolue et nous évoluons avec le monde. Au départ, nous étions plus proches de groupes comme les Frères Jacques. Et puis, petit à petit, nous avons évolué en injectant dans notre spectacle des chants ou des bribes de chants plus modernes, plus actuels. Johnny Hallyday, par exemple, des chansons un petit peu plus actuelles de Juliette, etc. Nous les mettons à notre sauce et nous en faisons des chants extrêmement comiques, humoristiques, un peu caustiques et un petit peu coquins parfois.
Oui, je me souviens d'avoir une chanson, je crois que c'était les Frères Jacques, qui s'appelait Les Fesses. Hein.
Les Fesses a été supprimé de notre répertoire parce que, comme je vous le disais précédemment, nous actualisons, mais cette chanson fait partie de nos grands standards, fait toujours beaucoup rire et on nous la réclame très fréquemment.
Maintenant, vous avez aussi une étape de création.
Non seulement nous créons nos musiques puisque nous avons des musiciens qui sont à la hauteur de ce que l'on demande. Et puis en même temps, parfois, nous transformons des chansons avec des paroles à notre sauce. Et c'est cela aussi qui fait notre originalité, notre particularité.
Vous avez, je crois, un nouveau spectacle qui se prépare, que vous aurez joué à Merrier quand cette émission passera. Et il consiste en quoi, ce nouveau spectacle ?
Nous nous sommes inspirés des Tontons Flingueurs. Ce spectacle s'appelle les Dés Flingueurs, avec un petit jeu de mots concernant les dés en bulle. C'est un spectacle entièrement théâtralisé.
Et vu le type de chanson, le type de répertoire, j'ai l'impression que vous êtes une bande de copains qui vous amusez bien.
Les répétitions les mercredis soirs ne sont pas tristes, en effet. Il y a beaucoup de quiproquos et de là ressortent énormément d'idées, de projets.
Quelle est votre zone d'intervention ?
Nous intervenons sur des zones accessibles pour toutes les personnes qui travaillent et qui terminent un peu tard. Mais nous pouvons nous déplacer sur une centaine de kilomètres aux environs de Bourgoin-Jallieu. Les communes du secteur nous connaissent bien et nous revisitons ces communes avec plaisir et très fréquemment.
Vous avez un site internet ?
Ce site est en cours de réalisation, mais si vous tapez déambule, cela vous renvoie à YouTube.
Donc qu'est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter sur ce qu'on vient de dire ?
Eh bien, pour conclure, je pourrais dire que ce spectacle, les Dés Flingueurs, que nous avons joué à Merrier, est disponible et à la disposition de toutes les personnes qui voudront bien passer un moment jubilatoire avec nous.
Voilà, merci madame. Bonne journée à vous et bonne chance pour ce nouveau spectacle. Je suis avec Vincent Rosier, qui est le président de ce qu'on appelle ici le foyer rural à Merrier, qui est en réalité, son nom est complet, c'est le foyer rural de jeunes et d'éducation populaire. Ce foyer rural est divisé en un certain nombre de sections, c'est ce qui en fait sa particularité.
Bonjour, donc l'association foyer rural de jeunes et d'éducation populaire est composée donc d'un président et d'un bureau et d'un conseil d'administration. Cette association organise elle-même des manifestations qui regroupent tout le village, par exemple les jeux interquartiers. Cette année, on a fait la fête de l'été. Ça permet aussi à l'association elle-même d'avoir ses rentrées d'argent, ses revenus.
Mais vous avez parlé de sections. Ça veut dire que vous avez des différentes sections avec différentes activités au sein même du foyer rural.
Oui, donc on a donc 6 sections ouvertes aujourd'hui qui sont menées par des responsables de sections qui ont eux-mêmes un bureau officiel. Mais l'association reste responsable de tout ce qui se passe dans ces sections. Les 6 sections, je vais les évoquer rapidement. La section qui s'appelle les joyeux retraités, c'est quand même des activités régulières de semaine. Tous les gens qui travaillent n'y sont pas conviés, ou ils se regroupent en tant que retraités, ils font des voyages, ils font des choses aussi en commun avec d'autres associations mériotes, par exemple le jumelage. Après les joyeux retraités, je peux vous parler de la section collection Les Deux Fils. C'est de la couture, de la broderie, des canevas. Ils font aussi chaque année une ou deux expositions de leurs travaux.
Oui, mais je pense que c'est plutôt une activité féminine.
Ah oui, sachant qu'il n'y a que des femmes. C'est un petit groupe et qui, par exemple, cette année, sont montés à Paris voir une exposition. Après, je peux vous parler de la gymnastique des plus de 50 ans, parce qu'on reste dans le même type de personnes qui se font plutôt en semaine. Cette activité est animée par une personne diplômée. Ces trois activités-là regroupent des personnes qui sont de plus de 50 ans. Il y a plus de temps de libre pour les retraités. Dans les gens qui sont un peu plus jeunes, qui brassent plus de population, c'est la section Merrier Marché Nature. Au moins trois fois par semaine, sans compter les week-ends, ils vont faire des balades et souvent découvrir des balades un peu partout. Ils organisent aussi des voyages sur un ou plusieurs jours.
Et il y en a quelques-uns qui ont envie de se faire des chemins comme Saint-Jacques de Compostelle dans le groupe.
Alors, à titre personnel, il y a des familles qui vont marcher sur Saint-Jacques ou vont faire d'autres marches aussi connues avec le jumelage. Ils sont allés marcher entre Merrier et ce village italien. On va avancer un peu plus dans les plus jeunes. Il y a une association qui s'appelle l'association Je t'aime. À l'opposé des joyeux retraites comme ça, là, on a vraiment des jeux de plateau, des jeux modernes, sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeux qui sont créés chaque année. L'association, hein, ça reverse des subventions à ces sections et donc, du coup, ça permet aux sections d'acheter des jeux.
Mais il y en a une sixième qu'on a oublié. Je crois que ce sont les jardins partagés.
Alors, les jardins partagés, comme il porte son nom, c'est un lieu qui se trouve vers le stade de Merrier, qui est mis à disposition par le village. Et donc, il y a une zone où il y a, je crois, une dizaine de jardins que les gens peuvent louer. Ils ont acheté en commun un chalet, ils mettent en commun des outils, des savoir-faire. Et cette année, par exemple, ils ont remplacé le lycée horticole qui n'a pas pu vendre des fleurs sur Merrier. Donc, ils ont fait cette animation. Ils ont mis plein de fleurs sur la place du village et les ont mis en vente.
Ce foyer rural est un petit peu particulier par rapport à ceux qu'on peut connaître dans d'autres villages. Vous avez presque une fonction de comité des fêtes.
On a une comité des fêtes, sachant qu'on reste une association. Les fêtes de village, les fêtes de quartier, c'est gratuit. Et on favorise les quartiers à se réunir, à faire des vins chauds, des repas, plein de choses comme ça, qui permettent de faire vivre le village. Et je crois que c'est important.
Globalement, le foyer rural représente combien de personnes ?
Au niveau du foyer, alors j'ai pas l'instant T évidemment, mais c'est environ 200 à 250 personnes, puisqu'il y a beaucoup de doublons, de triplons, de quadruplons. J'ai qu'il y en a qui font 4 sections sur 6.
250 personnes, c'est quand même 25% de la population de Merrier.
Oui, il y a du monde. Par exemple, une soirée comme Halloween qui va arriver. L'année dernière, on était quand même à 39 préados.
Mais quand vous me décrivez un peu ce que fait le foyer rural, je comprends pourquoi le maire m'a dit c'est une association importante à Merrier.
Oui, il faut que ça reste important, mais pas trop vieillissant. Et finalement, il y a ce relais qui est en train de se faire. C'est comme ça qu'on fera vivre les animations dans le village.
Écoutez, c'est une bonne conclusion. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Le tissu économique est principalement concentré dans la vallée du Bion. Cette zone, sous la gestion CAPI, est très liée à celle de Maubec. C'est le Bion qui sert de limite entre les deux zones. De nombreuses petites entreprises et services y sont implantées. Nous avons retenu trois d'entre elles. Fassion TP, qui représente bien le tissu économique de Merrier, puisque son actuel dirigeant, Olivier Fassion, est issu d'une très ancienne famille mériote et qu'il a choisi de valoriser son village en devenant le propriétaire de la maison forte de la Barre et en restaurant celle-ci. L'imprimerie Cusin est également implantée dans la vallée du Bion. Voici une quinzaine d'années qu'elle a quitté le centre de Bourgoin-Jallieu pour des locaux plus fonctionnels permettant son développement. Une ancienne industrie mériote qu'il ne faut pas passer sous silence, les tissages Marc Rosier. Aujourd'hui rattaché à un groupe étranger, il symbolise le savoir-faire du tissage haut de gamme avec le travail de la soie et d'autres textiles de luxe. La quatrième activité que nous vous faisons découvrir se situe dans un domaine plutôt rural. Il s'agit du haras du mât. On y retrouve de l'élevage de chevaux, de la pension, des concours, des stages. Des manifestations y sont organisées avec des spectacles équestres et autres distractions. En complément, un centre de soins, spa pour humains et spa pour chevaux, ainsi qu'un bar à tapas. Pour des raisons techniques, l'entretien avec Olivier Fassion n'a pas été enregistré. Nous avons découvert une PME de 13 personnes bien implantée dans le village de Merrier et connue dans tout le secteur du Nord-Isère. Cette entreprise a été créée par Père Fassion, le père de l'actuel dirigeant, voici une quarantaine d'années. Olivier ayant pris la tête de l'entreprise en 2005. Les 13 personnes qui la composent sont réparties en un dirigeant, une administrative et 11 ouvriers qualifiés. La qualification et la compétence de ces ouvriers permettent une structure d'encadrement légère. Olivier Fassion assurant les suivis de chantier, les réponses aux appels d'offres et la gestion de tous les problèmes techniques. Cette entreprise du BTP travaille dans les domaines du terrassement, de la démolition, des réseaux et des lotissements, et plus généralement dans les travaux complexes. Ces chantiers se déroulent en priorité dans un rayon de 15 km autour de Bourgoin-Jallieu. Ils sont majoritairement des marchés privés, à 80%, mais aussi quelques marchés publics. Dans un contexte économique difficile, ce qui caractérise l'entreprise Fassion est sa réactivité, sa proximité et sa flexibilité qui lui permettent de traiter des travaux en urgence. À titre d'exemple, lors de notre entretien en fin d'après-midi, à la suite d'un appel à Villefontaine pour une fuite d'eau, Olivier Fassion allait se rendre sur place dans les instants qui suivaient pour mettre en place une intervention dès le lendemain à la première heure. Dans la mesure des possibilités, Fassion TP aide les associations et les clubs sportifs locaux. Entre autres, une championne de tennis de table handisport bénéficie de ces aides. Dans les travaux réalisés par Fassion TP, on peut citer la démolition de la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Jallieux, la démolition du théâtre Jean Villard suite à son incendie, les réseaux de l'usine d'incinération et de la station d'épuration de Bourgoin-Jallieux. Olivier Fassion est natif de Mérié. Il est issu d'une vieille famille locale et bien implantée dans la vie locale. À ce titre, il est conseiller municipal depuis plus de 20 ans. Son implication dans la vie locale ne s'arrête pas là. En 2014, il a racheté la maison forte de la Barre, ou plus précisément ses ruines. Et chaque week-end, depuis 3 ans, il travaille à sa rénovation. Sa motivation ? Remettre en état et garder ce patrimoine local pour les générations futures.
Vous êtes sur 87.1 à l'écoute de Couleur FM. Petit voyage loin du Nord-Isère avec Jolie Bassette, un morceau de musique cajun. je suis avec monsieur et madame Coquet, qui sont les propriétaires du Hara du Mât à Mériez. Monsieur Coquet, parlez-nous d'abord du cheval, puisque je crois que c'est l'élément principal.
Oui, ben voilà, donc nous, on a notre élevage de chevaux ibériques. Et donc, ben, ma femme, ça fait 35 ans qu'elle fait de l'élevage. Donc, ben, l'idée, c'est d'avoir de bons chevaux, de pouvoir assumer le dressage, de pouvoir les emmener en haute école. Et puis, bien sûr, après, trouver le bon cavalier qui va se faire plaisir avec des chevaux dressés.
Vous faites de l'élevage, donc vous avez des pouliches, vous les prenez à la naissance?
Oui, on a des poulinières, donc le 13 octobre sur la région, c'est un peu exceptionnel, nous avons fait confirmation de chevaux mâles femelles. Nous avons trois juges du Portugal qui vont se déplacer à Mériez, deux juges français organisés par l'AFL.
Ce seront vos chevaux ou des chevaux qui viennent de différents endroits qui vont être confirmés?
Alors pas du tout, on a quand même réussi, bien sûr qu'on va présenter déjà nos chevaux, mais c'est ouvert à la France entière. Donc ce n'est pas fermé, ce n'est pas que pour nos chevaux, c'est ouvert à tous.
Donc le 13 octobre, de l'animation à Mériez. Qu'une fois que les chevaux sont élevés, maintenant il faut parler des cavaliers. Je crois que vous avez une partie école qui est assez importante.
Bah oui, notamment quand on a racheté il y a 5 ans, donc l'école existait déjà. Et donc aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin, puisqu'on tient à accompagner cette école. C'est le démarrage de peut-être de futurs champions. On a mis notamment un moniteur qui a eu de bons résultats sur le plan français et sur le plan européen. Et on espère bien que nos enfants vont en profiter et puis que, pourquoi pas, il y ait quelques enfants qui sortent du lot.
Vous avez ces deux facettes, la facette élevage et puis la facette école. Et est-ce que vous organisez autour du cheval d'autres manifestations dans l'année?
Bah oui, tout à fait, parce que dans le but que l'on a, c'est aussi d'organiser des repas spectacles. Donc on a la chance de pouvoir faire venir des gens comme Hasta Luego.
Et il faut aussi penser aux cavaliers et aux soins. Donc vous avez une partie restauration, une partie soins des personnes aussi.
Oui, donc on a essayé de penser un petit peu à toute la famille. Donc on a créé ce petit bar à tapas qui est un peu familial. L'avantage du bar a été créé en face du manège fermé, donc la personne peut voir son enfant en plein travail ou en plein cours. Et si les parents le souhaitent, ils ont la possibilité de faire un spa de nage, un sauna, ou ils ont la possibilité par un indépendant de venir faire se masser sur rendez-vous, puis d'organiser aussi des choses à l'extérieur en pleine nature, comme le safari truite que nous sommes en train d'organiser le 30 septembre, ça sera notre deuxième.
Oui, on a parlé de spa pour les gens, les spectateurs ou ceux qui attendent leurs enfants, mais je crois qu'il y a aussi un spa pour les chevaux.
La première chose qu'on a installée, c'est le spa pour les chevaux, puisque on tenait à avoir un outil de travail qui soit impeccable.
Maintenant, des projets d'avenir?
Bah oui, nous avons plein de projets. Donc, ça fait deux jours qu'on vient de créer la section dressage.
Merci de l'entretien.
Je vous remercie.
Je suis avec Stéphane Cusin, qui est le dirigeant de l'imprimerie Cusin. Cette imprimerie Cusin, sur la région de Bourgoin, on en parle depuis très longtemps. Pouvez-vous nous donner l'historique?
Bonjour. L'imprimerie Cusin a été créée en 1933 par mon arrière-grand-père. Moi-même, je suis la quatrième génération. Ça fait donc 84 ans que nous existons, même si j'espère ne pas les faire. Nous avons déménagé de Bourgoin à Mériez en 2002. Nous sommes installés ici depuis 2002. Ça fait une quinzaine d'années.
Ce déménagement, ça a permis d'agrandir entre vos bâtiments et ça vous a permis aussi de vous adapter à de nouvelles techniques.
Bon, ça nous a permis déjà de travailler dans des locaux plus fonctionnels et rationnels. Et puis surtout de faire rentrer des nouvelles machines qui nous permettent justement d'aborder d'autres marchés en plus grande quantité, en plus gros volume.
Quels sont les types d'impressions que vous réalisez ici?
Les deux techniques d'impression sont le numérique et l'offset. On fait du timbre-poste journal multicolore, mais bon, on répond à toutes les impressions administratives, publicitaires et commerciales, ainsi que du packaging et de l'édition.
Et votre clientèle, elle est essentiellement privée. Vous avez peu de marché public.
Même si on répond de plus en plus aux appels d'offres des communes ou des communautés, la clientèle est essentiellement locale et régionale, même si on a certains clients au niveau national.
Vous intégrez aussi différents métiers maintenant dans votre imprimerie.
Avant, nous étions purement et simplement imprimeurs. Maintenant, l'imprimerie, c'est un tout et on est on a été obligé d'intégrer le pré-presse, les presses aussi bien numériques que presse offset, et bien entendu maintenant la finition, donc le façonnage, qui justement nous permet de répondre à la demande globale.
Et le fait d'intégrer tous ces métiers annexes à l'imprimerie, est-ce que ça vous permet d'avoir un peu plus de valeur ajoutée ?
Oui, c'est pas faux. Ça nous a permis déjà en interne de former ou de recruter des gens pour compléter le métier.
Et vous avez des périodes où l'activité est un peu plus importante et les délais de réponse sont de plus en plus courts.
Les techniques d'impression et la volonté des clients font que maintenant, nous n'avons plus de délais. Nous sommes obligés d'être hyper réactifs pour pouvoir répondre à la demande. Donc, grâce aux presses numériques, ça nous permet de pouvoir, une fois imprimé, façonné directement en sortie de machine. En offset, c'est un peu plus difficile.
Si vous avez d'autres choses à rajouter.
Je dirais que l'imprimerie est un métier qui a beaucoup évolué. Au cours des 5 dernières années, il a plus évolué au cours de 20 ans auparavant. Que les périodes où justement on va les aborder incessamment sous peu, novembre, décembre, janvier et février, où il y a pas mal de travail, dans le sens où il y a les réalisations des cartes de vœux, des calendriers, bulletins municipaux, réédition de tarifs. Et là, il va falloir encore une fois remettre les bouchées doubles et faire pas mal d'heures pour pouvoir réaliser ce que les clients nous demandent.
Vous avez ici à peu près une vingtaine d'employés et j'ai l'impression, vu de ce qu'on vient de voir à travers la vitre, l'ambiance est bonne.
Oui. J'ai essayé moi-même, ça fait 18 ans que j'ai repris la suite de mon père. J'ai essayé de garder cet esprit familial et convivial et ça a l'air de bien fonctionner et les gens s'y retrouvent bien. Donc j'ai gardé cet esprit-là.
Et je vous souhaite de le garder très longtemps et puis d'avoir très longtemps une belle activité. Merci Monsieur Cuzin.
Écoutez, je vous remercie de cette interview et bonne chance à tous. Merci.
Je suis au tissage Marc Rosier à Merrier. Ce tissage qui est une vieille usine du village, qui est dans le centre du village et qui est réputé pour le tissage de la soie et en particulier autrefois c'était ses foulards. Je suis avec Monsieur Didier Van Overbank, le directeur d'établissement.
Bonjour, alors Marc Rosier est une société de tissage. Nous tissons exclusivement des écharpes, des étoles, des châles en tissé teint, toute qualité, essentiellement de la soie bien sûr, mais avec de la laine, du coton, du lin, des fils fantaisie. Nous tissons aussi également des supports d'impression pour faire des carrés de soie, différentes tailles, on peut partir du largeur 90 jusqu'à du 160, 180, voire 180. On tisse aussi de la doublure, de la mousseline en écru, en 100% soie. Et un peu de fil fantaisie pour l'habillement. Nous sommes une entreprise de tissage avec 5 personnes, dont moi.
Votre entreprise est maintenant dépendante d'un groupe d'origine chinoise. Qu'est-ce qui a intéressé les Chinois dans ce tissage ?
Alors, on a été repris il y a 2 ans et demi, 3 ans, par un groupe chinois, Wensley. Qu'est-ce qui les intéressait ? En fait, ce qui les intéressait, c'était le Made in France. Ils voulaient avoir un produit fabriqué essentiellement en France, en partant de la filature, du moulinage, jusqu'au tissage, impression et teinture. Les traitements, la confection, donc la confection qui est externisée, donc qui n'est pas faite en interne. C'est essayer de vendre en Chine nos propres produits fabriqués en France.
Pour ce fait, je crois que vous avez 12 machines, 12 métiers, tous de même marque, c'est tous des Dorniers.
Alors nous avons 12 métiers Dorniers unis à Ratière pour nos bases de support d'impression. Et j'ai en plus 4 métiers façonnés avec une mécanique Stobli.
Avec toujours assez impressionnant la mécanique Jacquard qui est au-dessus du métier et tous les renvois qu'on trouve dessus. Les produits que vous faites ici, ils sont donc essentiellement destinés au marché chinois.
C'est ça, oui, tout à fait. Donc j'ai Wensley qui nous passe des commandes et ensuite par le biais de différents supports dont le web, nous sommes bien implantés là-bas en Chine et nous vendons actuellement exclusivement en Chine.
Et le marché, on va dire français et européen, qui est un marché très difficile, très concurrentiel et en plus avec des niches très fermées puisqu'on achète plutôt en Chine les produits maintenant. Vous avez des perspectives, vous avez quelque chose de prévu ?
Nous avons 2 commerciaux qui voyagent partout en France, clients, ils ont des rendez-vous, on a des petites touches, on a des petites commandes de temps en temps avec le marché français, anglais, un peu européen. On essaye de vendre nos produits, de nous faire connaître davantage.
On a parlé de l'établissement de Merrier, donc avec 5 personnes, mais il y a un siège, je crois, à Lyon.
Tout à fait, notre siège est à Lyon. Donc à Lyon, nous avons notre service commercial, plus une assistante, et puis notre directeur de site, avec 2 personnes qui sont au planning, au suivi de la confection, suivi des traitements.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Marc Crozier qu'on avait passé de côté.
Non, je vous ai tout dit. Je pense qu'on a fait le tour.
Bah écoute, il me reste à vous remercier de leur consacrer un peu de temps. Et puis, vous souhaitez bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Notre visite de la commune de Mériers est maintenant terminée. Notre prochaine étape sera la commune de Diémouze.